Interview.
Interview spéciale.
Spéciale.
Spéciale. Spéciale. 100 ans de la radio.
40 ans des radios libres.
10 ans de RDWA.
10 ans de RDWA.
Mais attends, pas trop près, j'ai peur.
À cet instant, je suis assis sur le canapé de RDWA avec Émilie Moncillon, qui est la présidente de RDWA. Quels sont tes souvenirs à toi de radio ?
Je ne suis pas née présidente de RDWA et j'étais une simple auditrice arrivée propulsée dans un conseil d'administration, salariée un temps et participante à tout ce qui pouvait m'intéresser. J'ai grappillé partout et j'ai fait tellement de types d'émissions à RDWA que c'est très compliqué d'en choisir un. Je crois que j'étais une auditrice de radio classique avant ça. Je pense que j'écoutais, ado, j'écoutais les Idioties de Fun Radio avec la soupe qui passe, qu'on connaît. Et puis ensuite, je me suis tournée vers des radios quand même plutôt classiques, mais moins cons, comme France Inter ou France Culture, ou des petites choses intéressantes. Et puis la découverte qu'il puisse y avoir des radios qui ne soient pas des grosses radios, qui puissent être des gens qui décident de se mettre ensemble pour faire une asso ou même juste émettre. Et la radio libre, la vraie, où les gens pas connus, tout le monde peut avoir la parole pour parler de sujets dont on n'entendra pas parler ailleurs, surtout de la façon qu'on n'entendra jamais ailleurs. Et puis voilà, quelques années quand même de mess punk, de coton-tige, ça forge, hein. C'est pas rien. Et puis surtout, oui, ça a été au service de ma curiosité, j'ai pu toucher à tout grâce à la radio. J'ai pu m'intéresser à des sujets, en tout cas on m'a guidée vers des sujets que je serais peut-être pas allée fouiller moi-même, alors ça permettait comme ça un foisonnement de nouvelles choses, notamment quand c'était l'heure du festival Est-Ouest. Ça, c'est vraiment des souvenirs de radio géniaux, avec des gens qui arrivent de l'étranger, qui ont écrit, qui ont fait des pièces, des photos, qui ont plein de choses à dire, des gens que je n'ai jamais croisés, que je ne recroiserai plus jamais, qui ne sont pas du tout dans mon quotidien, qui amènent un truc... Voilà, ça, c'est des souvenirs fous. Et puis, une fois aussi, je suis passée sur France Culture. Et Aline, qui est un bénévole de la radio, m'a dit qu'il m'avait entendu. Et ça, j'ai trouvé ça fou, parce que je pensais vraiment que ça avait été écouté par personne. Et bien, s'il y avait au moins Aline. Donc voilà, j'étais hyper contente.
Et quelle était cette émission ?
Alors, c'est divers courants de la pensée contemporaine. Ça passe le dimanche matin. Et en fait, une fois sur quatre, c'est fait par la Libre Pensée.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, Christophe Bitteau, vice-président de la Libre Pensée. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie Moncillon et Christian Mailleux pour évoquer avec eux la question du service national universel. Ma première question, Émilie, Christian, quels sont vos parcours militants respectifs, en général, et plus particulièrement vos engagements antimilitaristes, anti-autoritaire.
Je suis militante de la Libre Pensée depuis environ 10 ans, fille de militants ouvriers, de syndicalistes. J'ai baigné un peu dans les réunions politiques, les manifestations depuis l'enfance. Les hommes de ma génération n'ont pas subi le service militaire. J'ai pas le sentiment d'avoir particulièrement subi d'ambiance autoritaire qu'aurait réveillé en moi l'antimilitarisme. Mes convictions, elles sont davantage nées de fréquentations de militants plus âgés, et puis au fur et à mesure que j'ai acquis des connaissances historiques. Par exemple, il y a le combat de la libre pensée pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre 14-18 qui m'a un peu ouvert les yeux, qui m'a ouvert grand les yeux sur le sort des soldats. Ça a renforcé vraiment mon aversion pour les conflits armés et surtout pour ceux qui les justifient. Bon, et puis j'ai aussi rencontré dans ma vie des gendarmes et des militaires pendant la journée qu'on appelle citoyenne, et puis aussi pendant des recrutements subis et contraints par Pôle emploi. Il m'a semblé évident que de confier toute une classe d'âge aux militaires était une idée catastrophique.
Alors, qu'est-ce que ça fait d'entendre sa voix sur une radio comme celle de France Culture ?
Ça s'est pas produit parce que ça passe tôt le dimanche matin et je dormais. Donc je l'écoutais en podcast et je crois que ça perd un tout petit peu de son... Tu sais, il n'y avait pas la programmation, puis un générique, puis moi. Dans la vraie radio, il y avait... j'ai été voir quoi, comment était le podcast, donc je ne me suis pas entendue. Alors c'est intimidant en fait de le faire déjà. Quand même moi j'étais intimidée, alors je suis pas très timide, et c'était bien s'il me réinvite pour parler d'un truc, si je sais en parler, j'irai.
En quelques mots, qu'est-ce que tu dirais de ton action militante et aussi de femme de radio?
C'est pas facile à concilier, enfin c'est facile à concilier dans un certain... Enfin, ça dépend de quel ordre, de quel regard on se pose, en fait. C'est-à-dire que des fois, on a pu me reprocher d'être partisane parce qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que le journalisme soit neutre. Le journalisme n'est jamais neutre. Généralement, on reproche ça aux gens de gauche, hein, d'ailleurs. Hein. On demande aux gens de gauche plus de neutralité. je me suis toujours exprimée. J'ai jamais refusé de sujet. J'ai interviewé ici, en tant que femme de radio, des gens pour qui j'avais pas spécialement d'accointance. J'ai pu faire des interviews factuelles où on se lance pas dans des grands sujets politiques, etc. Mais le fait d'être engagée, et quand t'es engagée, tu l'es pas dans le vent. Engagée, ça veut pas dire juste dire révoltée. Engagée, ça veut dire que on sait un petit peu de quoi on parle, on a creusé un sujet, c'est quelque chose qui nous habite. Ça permet d'avoir du répondant. Et je crois que c'est nécessaire, en fait, pour faire de la radio, si on veut pas faire de la radio publicitaire où juste on présente un petit truc, on est béni oui-oui, et puis on n'oppose jamais de contradiction, jamais on va poser un peu une question un peu étonnante, on est trop consensuel. Je trouve que ça, c'est pas de la radio qui m'intéresse. Moi, j'aime pouvoir, si je suis surprise, si je suis heurtée, si je ne comprends pas, pouvoir creuser, opposer... tous les sujets, en fait. Et c'est là que c'est intéressant d'être quelqu'un de curieux de son époque, en fait, pour pouvoir poser des vraies questions et pas juste lisser les grandes lignes comme ça de quelque chose. Enfin, voilà, comme on en voit beaucoup trop à la télé, par exemple, en ce moment. Et faire de la radio associative et de la radio libre, c'est déjà être militant. Parce que si tu regardes dans les faits les radios associatives en France, une radio associative avec un CA et des gens comme ça qui vont chercher la parole là où elle est, elle est militante d'une liberté d'expression déjà, qui est quand même pas l'apanage de toute la classe politique. Donc elle a déjà un sens, en fait, le fait de faire de la radio libre où on... Avec en plus qu'on fait en plus ici à la radio, enfin, c'est déjà militant. Donc non, la neutralité, ça n'existe pas. Non, ça n'est pas souhaitable. Moi, j'invite tous les gens qui seraient pas d'accord, par exemple, ou qui auraient trouvé que l'un ou l'autre à la radio serait trop parti pris, eh bien, de venir pour dire, de s'exprimer à son tour, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est dit attend, mérite réponse, en fait.
Tu trouves que sur RDWA, on donne suffisamment la parole à tout un chacun, chacune?
Je crois, des fois je trouve ça triste que d'ailleurs les gens s'en emparent pas plus. Il y a des gens qui s'en emparent, on les voit quand même dans les interviews régulières. Je crois que les gens savent que la radio elle est ouverte pour des sujets, pour plein de sujets. Il y a le bip sonore, ça c'est quand même la façon la plus évidente. Tu composes un numéro, tu dis ce que tu as à dire. Peut-être que demain il y a quelqu'un qui va te répondre parce qu'il a trouvé que c'était bien ou con ce que tu disais. Ensuite, je crois qu'on a un programmateur et un CA, enfin une équipe qui est ouverte aux propositions. Ça nous est arrivé d'ailleurs d'être très ouvert aux propositions et de se retrouver avec des émissions, c'est pas facile à assumer, mais en tout cas d'une qualité qui est discutable. Et voilà, quand les gens s'en vont, on les retient pas. Ça a pu arriver. Mais chacun a eu sa chance. Et en effet, je ne sais pas si on est responsable du fait qu'il y ait certaines catégories de personnes qui ne se sentent pas de passer notre porte. Finalement, ça leur appartient. Peut-être que s'ils étaient venus, ils auraient été surpris de l'accueil. Voilà. Est-ce qu'on peut... On peut être ouvert à tout le monde ne viendra pas, cependant. Enfin, ouais, ça me paraît évident. Je ne dis pas que je ne suis pas prête à remettre en question la façon dont on travaille. Tout est toujours possible. Mais en tout cas, moi, la façon dont c'est ouvert me paraît satisfaisant.
C'est pas rien de tendre son micro à de l'inconnu. Comment tu l'as vécu, ça, et comment tu le vis?
J'ai fait moins de micro-trottoirs que toi. J'étais moins dans « je tends mon micro à l'inconnu ». J'ai fait de la radio plus confort quand même, hein, je dois avouer. J'étais beaucoup en studio.
Tu as fait de la radio sans doute beaucoup plus préparée, beaucoup plus travaillée.
Mais pas tout le temps, parce que j'ai pas toujours eu le temps de la préparer. Puis tout à l'heure, je parlais de Coton-Tige, par exemple. Je pense que s'il y a bien une émission qui a... Enfin, la playlist est toujours très préparée. Enfin, toujours, non, pardon. Régulièrement très préparée. Moi, j'avais toujours une petite chronique, mais bon, les gens en face... C'est pas vraiment des universitaires, ils n'ont pas de page Wikipédia. Il y a des gens, ils arrivent, ils ont juste un groupe de musique. Il y a le tout venant qui arrivait. C'était pas forcément l'émission la plus préparée en ce qui me concerne. Donc là, en effet, il fallait être dans le tout venant et puis ouvrir la porte du studio, d'ailleurs, grand des fois, pour qu'il y ait du monde dedans. Et puis pas toujours des gens à qui j'aurais spontanément ouvert, il faut être franc. Mais... J'ai parfois eu des réticences, enfin pas des réticences, mais le sentiment que ça allait peut-être être moins agréable que d'autres fois, certaines interviews, et j'ai parfois été très surprise de finalement passer un très bon moment avec des gens avec qui je ne sentais pas spécialement d'accointance, et puis finalement en discutant, eh bien la discussion, à défaut d'être... consensuelle, et ben justement elle rebondit, il y a une opposition qui est intéressante, des gens qui ont un parcours fascinant, et oui, j'ai jamais, enfin je sais pas comment tu le vis, comment les autres le vivent, mais je suis pas timide, et donc c'est déjà une barrière en moins pour moi. C'était facile de parler à tout le monde. Voilà, donc ça, ça a fait de la plupart de mes moments de radio des moments agréables, du coup, détachés de cette tension-là.
Alors, tu parles de cette émission Coton-Tige, qui a fait un peu scandale, et tu as été la femme de toute cette équipe très virile.
Ouais, alors virile, des fois très con. Des fois beaucoup trop alcoolisée, des fois hyper à limite avec moi, hein, faut admettre. Je pense qu'il y a des gens, je me souviens d'une ou deux fois où mon père a écouté et m'a dit, moi j'étais à deux doigts de péter ma radio en fait, parce que voilà. Bon écoute, je pense que c'est peut-être, je sais pas, c'était des moments... Puis il y a eu des moments, enfin il y a eu beaucoup plus de moments super, très drôles, avec une grande complicité... J'en garde globalement un souvenir de fou rire à répétition, de rencontres. Enfin, il y a quand même, on a reçu des gens. je sais pas. Je pense que C'est des rencontres uniques, quoi. On a reçu des gens pas possibles, en fait, je sais pas comment dire, mais des extraterrestres. On a fait de la radio partout, on a pris des directs sauvages un mardi férié parce qu'on trouvait que ça ressemblait à un dimanche. Enfin, ouais, c'était fou. C'était peut-être des fois une virilité un peu lourde, je sais pas, peut-être que j'ai compensé ça à des moments, j'en sais rien, c'était humainement riche.
Oh, yeah. Allez, pour le dernier refrain, je veux que tout le monde chante.
Ton tige sur RDW.
Ouh là là, badaboum. Ah, ouh, ah. Bonsoir. Tu écoutes RDW.
Tu écoutes Coton Tige sur RDW.
Ouais. L'émission qui passe dans le mauvais trou ce soir. Coton Tige te propose de la musique pour te réveiller ou pour t'endormir, de la musique pour te rendre heureux, de la musique sans cercueil.
De la musique sélectionnée avec soin.
Avec soin. On a un invité ce soir, on le présente, non pas tout de suite, après un morceau.
Écoute, je pense qu'ils vont le reconnaître, mais on va mettre d'abord de la musique et ensuite on parlera de lui, parce que si on parle trop de lui, après il s'énerve.
Ouais,
ok, bon, allez. Ouais, c'est bon, c'est bien.
À quel moment tu écoutes la radio ?
J'écoute la radio dans mon lit. J'ai toujours fait ça. Dans mon lit, dans ma voiture, évidemment. Enfin, dans la voiture des autres, puisque j'en ai pas à moi. Et en fait, j'écoute la radio là où j'écoute de la musique. Sauf que je fais pas la même chose, parce que quand on écoute la radio, bon, on doit un peu se concentrer. Donc quand j'écoute la radio, j'écris pas en même temps, par exemple. Tu vois, je peux pas. Donc c'est un moment où je suis posée, où je suis concentrée, j'écoute pour de vrai. Donc voilà, posée dans mon lit, soit avant de me coucher, soit le matin, quand j'ai 5 minutes, quand je me réveille, où je choisis d'écouter peut-être des fois un podcast, tout ça, dans ma cuisine et dans ma voiture.
Est-ce que tu as un souvenir de partager avec nous, là, sur un moment de matin et de radio ? Un moment de radio matin.
Un moment de radio matin, oui, alors ça va paraître un peu... C'est con un peu, mais je me souviens que mon père, dans la cuisine, quand j'étais petite, on écoutait la radio. Alors, je ne sais pas quelle radio on écoutait, mais j'avais envie qu'il m'enregistre sur une cassette, parce qu'on enregistrait, tu sais, des fois, sur des cassettes, quand il y a un morceau qui commençait et qu'on le voulait vite, on se dépêchait d'enregistrer le morceau sur la cassette. Et il y avait un morceau de Vanessa Paradis en anglais, que je chantais magnifiquement en yaourt, d'ailleurs. Et le morceau avait commencé, et vite, mon père avait appuyé pour me l'enregistrer. Parce que lui, bon, c'était pas tout à fait sa came, hein, Vanessa Paradis, mais vraiment, moi j'avais 5 ou 6 ans et j'adorais ce morceau. Et il avait réussi à me l'enregistrer, c'était ma cassette avec mon morceau de Vanessa Paradis.
Est-ce qu'il y a une voix de radio qui, dans ta vie d'auditrice, t'a particulièrement marqué ?
Macha Béranger, quand même. Pascal Clark. Ces voix, toutes ces voix, alors plus des voix de femmes, j'avoue, des voix de femmes, des belles voix de femmes dont on imagine ou pas, enfin c'est comme si elles avaient un physique impossible à saisir. On ne sait pas qui y a derrière, selon les moments, elles ne ressemblent pas à la même chose dans ma tête. D'ailleurs, je ne sais pas quelle tête elles ont, enfin si Macha Béranger, mais par exemple, tu vois, Pascal Clark, je ne sais pas quelle tête elle a, alors que sa voix m'a fascinée pendant des années. J'aime bien ce côté-là, on n'est pas obligé d'être beau à la radio. Il y a des gens d'ailleurs qui sont, enfin, on va dire esthétiquement, ce qui est un peu bizarre, parce que bon, qui ne sont pas beaux, enfin en tout cas pas remarquables, et qui... et qui ont des voix incroyables, qui passent tellement de choses. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est bien. Il y a des physiques qui ne sont pas faits pour la radio, pour la télé, mais tous les physiques sont faits pour la radio.
Bien, pour la dernière fois sur France Inter ce soir, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 1h du matin. Marie-Hélène Fauquet, la réalisation assistée de Thomas Hélin et de Victor Mutel, ainsi que d'Éric Morin et Bertrand Durand à la technique ce soir.
Quel est ton rêve pour la radio RDIWA?
Mon rêve pour la radio RDIWA, écoute, j'ai pas de rêve. Déjà qu'elle continue, en fait, ça me ferait bien plaisir. Je serais vraiment très triste si un jour, faute de motiver, on se retrouvait à se recroqueviller, à diminuer plutôt que, même si j'ai pas de fantasme d'accroissement. Supplémentaire, mais pour l'instant la dynamique elle est dans voilà, on développe des projets, il y a des gens embauchés, il y a des gens qui viennent en stage, il y a des nouveaux bénévoles, voilà, il y a toujours pas d'objectif de croissance particulier chez nous, c'est juste quand ça se fait et c'est bien. Ça me rendrait triste qu'à un moment donné le CS des peuples et qu'on sente que voilà c'est un projet qui décline, ça me rendrait triste. Alors si seulement ça pouvait garder un peu qu'il y ait un renouveau régulier pour qu'il y ait des nouvelles idées, des nouvelles personnes en forme qui arrivent avec plein de choses à en dire, parce que finalement, comme dans toutes les assos, on finit pas par se fatiguer, parce que c'est pas ça, mais c'est bien quand ça tourne, quoi, que c'est pas toujours les mêmes gens 20 ans après qui traînent comme ça l'association à bout de bras. Donc j'espère qu'on va continuer à recruter du monde au CA, continuer à recruter des bénévoles, continuer à ce qu'il y ait des gens qui veulent bosser avec nous, pour nous, qu'on puisse avoir des partenariats de plus en plus ouverts et variés. Voilà, je pense que la dynamique qu'on vit en ce moment, ça, ce serait mon envie pour la radio, mais sur le long terme, en fait, avec des gens différents, si besoin, que ça tourne, mais voilà, que ça continue d'être pétillant, comme c'est.
Quelle est, selon toi, l'identité de RDIWA? Qu'est-ce que tu en dirais de cette, de ce qu'elle est, au fond, dans son cœur ou,
Bah, elle est un peu ce qu'elle dit, ouais. Alors, tu vois, c'est compliqué parce que quand tu parles de gens, à des gens un peu vieux de Radio DIY, ils te disent « Ouais, moi, dans les années 80 ». Donc finalement, tu vois, Radio DIY, c'est plus du tout la Radio DIY des années 80, mais dans la tête des gens, finalement, ça ne peut que être lié. Parce que si dans les années 80, il y a eu une Radio DIY, c'est qu'il y avait le terreau fertile pour qu'il y ait Radio DIY. Si comme si elle a pu renaître comme ça à la fin des années 2000, c'est qu'il y avait aussi un terreau fertile, c'est qu'il y a quelque chose aussi ici qui fait une population, un dynamisme particulier au coin, mais qui fait Radio DIY, mais qui fait plein d'autres choses dans le coin avec les locaux, on va dire, d'origine, qui sont rejoints par des gens qui font le choix de venir ici. C'est pas rien de dire « je vais venir quelque part parce que j'aime cet endroit et que je veux y apporter quelque chose ». Tout ça se mélange, ça fait le DIWA. Nous, on essaye d'en être un petit peu un portrait, soit à travers des gens directement, des contributeurs ou des administrateurs ou des salariés, puisque finalement, quand vous portez votre voix dans la radio, vous y mettez un peu de vous. Donc c'est un peu le DIWA, c'est un peu vous. C'est vous tant que vous êtes Diwa, mais des fois c'est vous quand vous êtes plus Diwa et que vous êtes reparti. Et puis voilà, les gens qui vont, qui viennent. Radio Diwa en 2009, c'est pas la même que Radio Diwa en 2015, et c'est pas tout à fait la même qu'en 2021. Alors, je sais pas comment ce sera en 2025. Je pense que il y aura eu des nouvelles têtes d'ici là. Moi, je pense que j'écouterai hein, toujours. Je sais pas où je serai en 2025, mais c'est dans 4 ans. J'écouterai toujours qui sera le président, la présidente. Est-ce qu'on aura changé de gouvernance? Est-ce qu'on aura... Tu vois, Radio Diwa, c'est quand t'écoutes à, je sais pas moi, le 12 octobre à midi 2, c'est... tu peux en faire un instantané à ce moment-là. À la minute d'après, c'est encore autre chose. Voilà.
Pour finir, comment tu imaginerais la radio de manière générale, hein, comment tu l'imaginerais dans un futur plus ou moins lointain?
Alors, la radio, elle a un truc un peu intemporel. Bon, même si on va fêter, en fait, les 100 ans de l'outil radio, justement, c'est intéressant parce que c'est une technologie, bah, du coup, qui est vieille, auquel on a apporté des ajouts modernes qui la facilitent, mais finalement, il s'agit toujours de la même chose, les ondes hertziennes. Ça, il y a des gens à qui ça paraît dépassé, évidemment, mais pourtant, c'est un moyen assez simple, et finalement, avec pas grand-chose, on peut bidouiller un émetteur, c'est un petit côté résistant. Donc moi, j'espère que la radio, en général, elle va se servir de ce que la technologie fait de bon pour se rendre... peut-être plus accessible, plus facile, de meilleure qualité, enfin, mais qu'elle gardera ce côté... voilà, je ne suis pas hyper... je ne suis pas anti-RNT, hein, tu sais, l'équivalent de la TNT, la radio numérique terrestre, mais ce côté onde, j'y suis attachée. Alors, si un jour les radios sont obligées de passer par le numérique, eh ben, bon, ben, on s'adaptera. Mais je pense que les ondes hertziennes, elles perdureront quoi qu'il en soit, et que ça peut être des canaux de communication marginaux, mais auxquels on ne peut pas s'attaquer, en fait. Si on peut couper Internet et faire en sorte que le numérique subisse une censure, les ondes hertziennes, elles sont hyper dures à repérer, elles sont hyper dures à couper, et ce sera je ne sais pas comment dire, mais ce sera peut-être le dernier rempart de notre liberté d'expression, parce qu'on l'a déjà vu à d'autres occasions, les radios pirates, elles ont quelquefois permis de s'exprimer dans des contextes fascistes ou fascisants, en tout cas, des gens de l'ombre. Donc voilà, pour moi, la radio, ce sera toujours un peu ça.
Merci, Émilie.
De rien, Vincent.
Do not ask, 'cause I am gonna tell, and you won't like it anyway. The chance.
Some might say you dig your own grave, but I say dig it deep, dig it long.